réplique « Quelle place pour le père ?» avec Sabine Procoris et Jean-Pierre Winter. C'était, il y a peu encore, élémentaire. Cela ne l'est plus, en dépit des banderoles et des slogans de la Manif pour tous. L'extension irrésistible des droits individuels, conjuguée avec les avancées prodigieuses des biotechnologies, ont fait apparaître des configurations inédites et tout à fait surprenantes. Soit, par exemple, un couple de femmes homosexuelles qui ont recours à la procréation médicalement assistée. La conjointe avocate de celle qui porte l'enfant demande et obtient un congé paternité. Quelques mois plus tard, elle est elle-même enceinte, ce qui lui donne droit, après l'accouchement, à un congé maternité. Ainsi, maintenant que l'enfant est conçu par d'autres voies, que la rencontre d'un homme et d'une femme, toutes sortes de combinaisons surgissent et le père lui-même, au sens ancien du terme, peut être évincé et remplacé. Il est désormais facultatif. Devant ce vacillement des évidences les mieux ancrées, le fils et le père classique que je suis sont saisis de vertige. Pour me donner une chance de retrouver l'équilibre, j'ai invité deux psychanalystes, Sabine Procoris et Jean-Pierre Winter. J'ai beaucoup de questions à leur poser. La première m'est dictée par le pseudo-Lacan qui sévit périodiquement en moi. Qu'est-ce qu'on perd ou qu'on gagne quand on perd le père, Jean-Pierre Winter?
C'est effectivement la question la plus brûlante, la plus urgente, mais pour y répondre, il faudrait déjà se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un père. Et toute la difficulté réside justement là, c'est-à-dire que tout le monde emploie ce mot, mais personne n'y met le même contenu, et même chacun d'entre nous, selon ce dont il parle, peut dire le père de façon métaphorique, le père de façon réelle, le père de façon historique ou théologique, etc. Donc c'est en fait c'est extrêmement complexe. Donc je compléterai votre question en disant qu'est-ce qu'on perd quand on perd quel père? Quel père peut-on perdre? Parce que de toute façon, de père, tout le monde en a un. Quand on dit qu'on le perd, il s'agit de savoir si on le perd alors qu'on n'en a pas eu, ou si tout simplement, en ayant eu un, comme tout le monde, jusqu'à nouvel ordre technoscientifique, est-ce que ce père que de toute façon on a eu a été effacé ou est en voie de l'être? Si on s'en tient au père, celui qu'on désigne comme tel dans la réalité de l'enfant qui est en train de grandir, je dirais que la première chose qui me vient à l'esprit pour répondre à votre question, mais encore une fois, en s'en tenant à ce père-là, c'est-à-dire le père de la réalité quotidienne, celui qui vous nourrit, celui qui vous éduque, celui qui pourvoit à ses besoins et aux besoins de sa famille, la première chose qu'il perd, s'il n'en a pas, c'est la possibilité d'être ambivalent. La possibilité de rencontrer une figure tutélaire suffisamment solide, suffisamment forte ou quelquefois malheureusement insuffisamment solide, sur laquelle il va exercer la possibilité de vivre cette expérience qui consiste à la fois à aimer infiniment, à aimer de façon éperdue un homme et dans le même temps, de le haïr et de souhaiter qu'il disparaisse de la circulation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, que, on y reviendra peut-être, que de vouloir qu'il meure. Ce qu'il perd donc, c'est la possibilité, dès son plus jeune âge, je dirais dès sa conception, Françoise Dolto aurait dit dès avant même sa conception, la possibilité d'un ailleurs que celui qui est, au fond, son actualité, c'est-à-dire une relation privilégiée avec celle qu'il a mis au monde, celle avec qui il a vécu les premières sensations, et dont il doit pouvoir se dégager, dont il doit pouvoir sortir de l'emprise, dans un délai qui prend un certain temps, mais qui est absolument nécessaire à sa structuration. Et j'ajoute une chose encore, avant que peut-être vous passiez à une autre question. L'enfant qui est confronté à celui qu'il va appeler ou qui va être nommé son père, a affaire à quelqu'un qui non seulement le protège d'une emprise de celle qu'il a mis au monde, mais le protège aussi de ce qui pourrait lui apparaître comme excessivement écrasant, à savoir la toute-puissance divine. C'est un intermédiaire, le père. C'est quelqu'un qui permet de faire le lien, qui assure le passage, mais en protégeant l'enfant de tout ce qui, dans la vie d'un être humain, est censé être au-dessus de lui, mais d'un poids écrasant. Donc à la fois, il est médiateur dans la relation à ce qu'on a appelé jusqu'à présent le Dieu ou les dieux, et en même temps, il est celui qui est, malgré cela, souhaitable dans la dimension de sa disparition. Donc finalement, on perd quelqu'un d'extrêmement fragile.
Alors, bien. Avant de passer à une autre question, je pose la main
alors,
à Sabine
Pompouris. Je vais essayer de répondre d'une façon peut-être assez succincte pour le moment. Dans votre question, il y avait énormément de plans qui étaient conjugués, en fait. Le plan de la langue ordinaire. Tout le monde emploie ce mot de père ou de mère ou d'homme ou de femme. Donc c'est ce plan de la langue ordinaire qui est celui dans lequel nous baignons. Et il y a le plan effectivement du droit, puisque dans l'état actuel du droit, effectivement la conjointe, puisqu'il n'existe pas de congé de double maternité, aura un congé de paternité. Ça, c'est le registre du droit actuellement. Et puis, il y a le registre de ce que vous appelez, effectivement, un certain nombre d'évolutions sociétales liées à la fois, liées à beaucoup de choses, mais dont, en effet, les énormes possibilités offertes par l'assistance à la procréation, évidemment, ça intervient là-dedans. Alors ça, c'est une première chose. Donc comment se conjuguent tous ces plans? Je voudrais partir, et vous avez dit une chose qui me semble très importante, et je répondrai par ce biais à Monsieur Winter. Vous avez dit que nous sommes face à des configurations inédites. C'est tout à fait vrai. Nous sommes depuis quelques années face à des configurations familiales dans l'alliance et à des transformations des formes de l'alliance et de la parenté que, de fait, on n'aurait pas imaginé il y a, disons, 40 ans. Hein ? C'est vrai. Alors, comment se rapporter à cette situation inédite, comment essayer de la comprendre? Parce qu'au fond, la première question que ça nous pose, et je vais répondre sur la question du père, c'est celle-là, d'où ça sort? Comment est-ce possible que les sociétés occidentales aient, d'une certaine manière, rendu des situations juridiques, familiales, qui n'existaient pas? Oui, c'est surprenant. Est-ce pour autant un bouleversement radical? Je ne le pense pas. Et je m'appuierai là-dessus sur, au fond, ce que peut écrire un anthropologue comme Maurice Godelier, qui, dans son livre « Les métamorphoses de la parenté », dit deux choses qui me semblent très importantes à méditer. Il dit qu'une transformation dans la parenté, c'est-à-dire tout ce qui touche à la filiation, je ne parle pas seulement de la parentalité et du soin aux enfants, je parle de la filiation, des figures de la filiation. Une modification dans la parenté produit toujours et encore de la parenté, mais autrement. Donc ça, c'est une première chose. Et il ajoute quelque chose qui me semble aussi important pour réfléchir à ce qui nous arrive aujourd'hui, à ce qu'on pourrait appeler à la fois un malaise dans la situation et une transformation ou une modification, en fait, pas si gigantesque que ça, des figures de la filiation. Eh bien, il dit que la transformation est le fait humain par excellence. Donc notre tâche à nous, c'est de penser cette transformation d'une manière aussi précise que possible. Et puis, plus la matière est complexe, plus il est important, en fait, d'user de plusieurs outils, c'est-à-dire à la fois la focale qui regarde les choses de près, à la manière de Carlo Ginzburg quand il fait de la micro-histoire, et puis en même temps de ne jamais oublier le contexte général. Alors le contexte général, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement un héritage culturel qui est que, bah, jusqu'à présent, bien entendu, habituellement, la plupart du temps, on a papa, maman, un père, une mère. Je ferai la différence entre ces termes qui ne sont pas dans le droit, d'ailleurs, heureusement, papa et maman. Mais si vous considérez le droit, en droit, sans même parler des configurations homoparentales, vous pouvez avoir quatre parents ou trois parents. Dans le cas de l'adoption simple, par exemple, vous avez quatre parents qui n'ont pas le même statut. Dans le cas, et pareil dans l'adoption. Donc, vous voyez, il peut y avoir la question du droit, c'est une autre question. Et le droit, comme dans toute société humaine, eh bien, il est historique et il se constitue en dialogue avec l'environnement. Alors, mon hypothèse, c'est que qu'est-ce qu'on perd quand on perd le père ? Alors, quel père, vous l'avez très bien dit. Je pense que vous avez, me semble-t-il, mélangé plusieurs plans. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Je crois qu'on perd, enfin, je crois qu'il y a personne ne le dit mieux que, si, à part vous, le pape François. Dans son commentaire remarquable de la prière de Notre Père, il dit, en fait, on perd, il dit qu'on est dans un monde malade d'orphelinage aujourd'hui. Il dit, on perd une sorte de sécurité. Mais c'est une sécurité qui est d'une certaine manière illusoire. Et vous avez dit que ça nous protège de Dieu, mais en réalité, vous maintenez Dieu. Et le titre de votre livre est très étrange de ce point de vue-là à mes yeux, parce que quand vous dites l'avenir du Père, évidemment, ça m'évoque l'avenir de l'illusion. Et l'illusion, c'est bien, l'illusion religieuse, c'est bien ce qu'il convient de questionner. Et la paternité, vous la rapportez directement à la question religieuse.
Jean-Pierre Vinter, répondez directement.
Je veux pas... ben justement, j'essaye de pas la ramener à la dimension religieuse, mais en même temps, je suis bien obligé de constater que, quelles que soient les religions, la question de Dieu et du Père, les questions de Dieu et du Père sont liées.
Certainement.
Donc on peut imaginer qu'on va essayer de les délier. La question est de savoir pour le bénéfice de qui ou de quoi. Mais enfin, bon, c'est rentré dans un détail qui peut-être pour le moment peut être mis de côté. On doit penser la transformation, dites-vous. Oui, ça ne veut pas dire qu'on doit y adhérer. La pensée, c'est effectivement mesurer si tel est l'intérêt des enfants, d'abord, tel est l'intérêt des familles, tel est l'intérêt de la société. Penser la transformation, c'est peut-être l'objet électif des anthropologues, mais moi je suis psychanalyste, je suis pas anthropologue. Et donc je me base sur ce que les enfants disent en séance, sur ce que j'observe, sur ce que les adultes qui ont été des enfants racontent, sur ma propre enfance et sur l'élaboration du travail clinique à partir des souffrances et surtout à partir de cette dimension de la souffrance qui s'appelle l'angoisse, dont malheureusement il n'est quasiment jamais question dès lors qu'on entre dans ces débats. C'est d'ailleurs assez saisissant. Alors, penser la transformation, ça veut dire éviter d'être idéologue et de prendre pour une nécessité ce qui est présenté comme un progrès définitif et sur lequel il n'y aurait pas à revenir. Un peu comme on pouvait dire dans les années 60 ou 70 que si on n'était pas du côté du socialisme bolchevique, on n'était pas dans le cours de l'histoire. Aujourd'hui, bon, la question est celle-ci. Il y a une différence entre ce qu'on appelle le père et ce que, le reprenant de la réalité de tous les jours, ce qu'on appelle le papa. Là-dessus, il y a une confusion absolument phénoménale dont je dirais que, d'une certaine manière, c'est un piège qui est tendu à la pensée. Quand les soutiens de la Manif pour tous disent un papa, une maman, un enfant, ils ne parlent pas exactement de la question du père. Ils parlent du papa. C'est d'ailleurs assez étonnant, cette façon extrêmement régressive de nommer les choses, au point qu'on entend aujourd'hui encore à la radio, à la télé, un peu partout, des intellectuels, des hommes, parler de leur père, à 60 ans, dire « mon papa »,« ma maman », comme s'il désignait principalement le lien affectif. Or, le père, c'est autre chose que la question du lien affectif.
Je voudrais aller un peu dans le même sens, Jean-Pierre Vinter, parce que on assiste à une auto-éviction en quelque sorte. Alors, vous avez parlé de la manif pour tous. J'ai sous les yeux un article du Figaro sur l'inquiétante explosion des violences contre les députés. Les gilets jaunes s'attaquent à des permanences. Un parlementaire sur 10 a été attaqué depuis le début du mouvement. Et c'est une recrudescence dont sont surtout victimes les députés de La République En Marche. Et l'un d'entre eux, Christophe Lejeune, a été visé. Les manifestants sont venus jusque devant chez lui. Ils ont crié « Macron, démission, député dehors ». Il a été obligé d'appeler la police. Et voici ce qu'il a dit. « C'est aussi le domicile de mon épouse et de mes enfants. Je suis député, mais aussi et surtout mari et papa. » Mari et papa. Et non mari et père. Or, papa, maman... c'est la c'est le sentiment lui-même. Et ce qu'on peut dire de manière peut-être un peu schématique, c'est que avec le père, le monde n'est pas seulement régi par l'amour, mais aussi par la loi. Et on a l'impression que là, c'est l'amour qui fait la loi et qui débaptise et le père et la mère au profit de maman et de papa. Et donc, même si on reste dans une forme de reproduction naturelle, la figure du père semble être en danger.
Alors, oui, alors, je suis absolument de votre avis sur la niaiserie absolue de ce vocabulaire de papa-maman, bien sûr, qui se répand partout dans les médias, dans la presse, dans le champ politique. Je suis tout à fait de votre avis aussi sur le fait que la loi est quelque chose qui est évidemment fondamental. Et mais la loi, je pense que justement, quand on emploie ce mot de loi, quand Jean-Pierre Winter l'emploie dans son livre, il l'emploie au moins en trois sens. La loi commune, puis ensuite avec une majuscule, tout d'un coup la majuscule, comme si la majuscule était une argumentation. La majuscule pour la loi symbolique, et puis la loi au sens juridique. Alors, la loi dont je parle, en l'occurrence, c'est la loi au sens juridique qui est produite par qui ? Eh bien, dans les démocraties, par l'Assemblée des élus. Donc, qui réfléchit à la manière dont le champ juridique accompagne, cadre, parce que c'est important que ce soit cadré, les évolutions sociétales. Donc, je n'ai pas d'ailleurs, monsieur Winter, je n'ai pas parlé de progrès. J'ai parlé d'évolution, pas plus que je ne parlerai de... Ça ne m'intéresse pas de parler en termes de progrès ou de réaction.
Ah oui, sauf que ces évolutions, alors, le progrès, vous les jugez plutôt positives.
Oui, mais attendez, ce que je juge positif, c'est... Non, attention, il ne faut pas... Non, je ne juge pas que les évolutions en tant que telles sont positives ou négatives, je ne les juge pas. Comme Spinoza, hein, ne pas rire, ne pas pleurer, essayer de comprendre. Par contre, ce que je juge positif...
Par contre, vous jugez ceux qui ne pensent pas que c'est
par contre,
évolution
je
positive.
Termine... Je juge positif que la loi trouve comment, effectivement, donner un cadre à, effectivement, ces évolutions. Je m'appuie là sur notamment ce que dit Marie Douglas, qui est très intéressant, qui est une anthropologue. Elle dit, on peut traiter les anomalies de différentes manières. Et c'est vrai que ces configurations inédites semblent être des anomalies par rapport à ce dont nous sommes ce à quoi nous sommes familiers. Elle dit, négativement, on peut les ignorer, etc., ou encore les percevoir et les condamner. Positivement, dit-elle, on peut affronter délibérément l'anomalie et tenter d'élaborer un nouvel ordre du réel où l'anomalie pourrait s'insérer. Il arrive que des phénomènes anormaux soient qualifiés de dangereux. Il est vrai que les individus confrontés avec une anomalie en éprouvent parfois de l'anxiété. On retrouve votre angoisse. Mais on aurait tort, dit-elle, de traiter les institutions comme si elles évoluaient de la même façon que la réaction spontanée des personnes. Alors le progrès, pour moi, il est dans une sorte de laïcité, si vous voulez, profonde. C'est-à-dire dans le fait qu'on se sépare, au fond, de ces idées et de ces évidences pour pouvoir penser autrement. Et quant à ces évolutions, vous parlez de la psychanalyse. Moi aussi, j'écoute des gens dans toutes sortes de situations et je pense, même si je pense que ça vous paraîtra étrange, que les configurations inédites que nous constatons aujourd'hui, bah, la psychanalyse comme expérience à la fois intime et collective y est pour quelque chose parce que la séance de psychanalyse, c'est un lieu où on a un gros plan sur la façon dont se métabolise le collectif dans la psyché intime. Et en retour, par effet de capillarité, un certain nombre de choses se transforment. Alors, justement sur la question sexuelle, et peut-être qu'on y viendra tout à l'heure.
On y viendra très vite, oui. Alors Jean-Pierre Winter, vous voulez répondre et...
Oui, je veux répondre sur deux points. Le premier, c'est que, bien évidemment, chacun a à se débrouiller avec ce que lui offre la vie et avec les cartes qui lui sont distribuées. Et donc, quand quelqu'un vient avec une idée d'être père ou mère de telle ou telle façon, selon son histoire, selon ses fantasmes, etc., je l'écoute pas avec des filtres idéologiques liés à mes convictions. C'est vrai d'ailleurs dans ce cas-là, comme le fait que je reçois sans a priori, dans le moment où je les reçois, des gens qui partagent pas mes opinions politiques, qui partagent pas mes opinions religieuses, etc. Et donc je m'y tiens absolument. Mais ceci dit, ça ne m'empêche pas, parce que justement je suis passé par la psychanalyse, d'avoir des idées et des jugements quand il s'agit du collectif. Et les névrosés, ou quelquefois pire, qui prennent le risque de venir s'étendre sur un divan, ont en général cette particularité, c'est qu'ils se privent de jugement, justement. Et Hannah Arendt nous a bien expliqué à quel point se priver de jugement était probablement la plus grave des choses qui puisse arriver à quelqu'un, et à une collectivité en plus. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la question de la loi, où vous dites des choses tout à fait importantes, quand je parle de la loi et que de temps en temps j'y mets effectivement une majuscule, c'est parce que je parle d'une loi dont Kafka aurait dit à la fin du procès, dans L'homme devant la loi, d'une loi qui précède l'écriture des lois. Quand vous savez, quand le prêtre dit à l'homme devant la loi, quand il lui dit, quand il lui raconte ça et qu'il lui dit, c'est sur les écrits qui précèdent la loi que tu te trompes. Et les écrits qui précèdent la loi, c'est tout simplement ces écrits non écrits, donc par exemple l'interdit de l'inceste ou l'interdit de l'anthropophagie, dont on ignore, j'imagine vous comme moi, comme tout le monde, sur quoi ils se fondent réellement, quelle en est la raison fondamentale. Mais ça fait pas partie des lois, bien que ce soit le fondement de la loi. Ça fait pas partie des lois, et c'est une des raisons pour lesquelles je m'étais sérieusement gendarmé contre la proposition finalement votée d'interdire l'inceste par la loi positive, donc par le droit, parce que, comme vous l'avez laissé entendre, ce qu'une loi a fait, une autre loi peut la défaire. Or, l'inceste, l'interdit de l'inceste, ça peut pas être défait. Je me souviens d'une journaliste d'une émission de télévision qui s'appelait « 16 discute », qui m'avait demandé de participer à une émission sur l'interdit de l'inceste, et je lui avais dit que je refusais. Elle m'avait demandé pourquoi, je lui avais dit parce que ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas, mais c'est le fondement de la loi, c'est le fondement de toutes les lois. Et donc l'expérience analytique nous apprend ceci, qui est très important, c'est que quand cette loi-là n'est pas respectée, ce qui est mis en danger, c'est justement la fonction paternelle. Et la fonction paternelle, en tant qu'elle engage la différence des sexes, en tant qu'elle engage la différence entre les hommes et les femmes pour un enfant, mais surtout en tant qu'elle engage la différence entre ce que c'est qu'être une mère et ce que c'est qu'être un père.
Alors, oui, justement, vous êtes tous les deux psychanalystes, je l'ai dit au début, je ne suis pas absolument sûr que vous ayez la même théorie ni la même pratique. Jean-Pierre Winter vous dit, on ne vient pas voir un psychanalyste, c'est ce que vous écrivez, si l'on n'a pas le sentiment que quelque chose vous empêche de vivre votre vie. Vous ne seriez pas forcément en désaccord avec cela, Sabine Procoris, mais vous dites que la cure de psychanalyse traite ces animaux malades des normes que nous sommes. Et vous écrivez aussi que la souffrance à laquelle la psychanalyse a affaire émane d'une sorte de crise affectant la relation d'un sujet aux normes d'existence qui ordonnent pour lui le champ des possibles. Donc, en quelque sorte, il faudrait presque, si j'ai bien compris, guérir ou libérer le sujet de ses normes et éventuellement de ses dispositifs de pouvoir. Or, vous allez loin dans la définition des normes. Vous avez tout à l'heure parlé de la langue ordinaire, et cette langue ordinaire, vous la mettez entre guillemets, les hommes entre guillemets, oui, les femmes entre guillemets, la différence des sexes entre guillemets. Donc comme si tout cela, d'une certaine manière, nous enfermait, et que justement, les évolutions technologiques et sociétales pouvaient, avec l'aide de la psychanalyse, nous en affranchir. Mais je disais que je parlais tout à l'heure de mon vertige, mais si on vous dit qu'il n'y a plus tout à fait ni homme, ni femme, ni différence des sexes, on a de quoi être complètement perdu.
Non, d'ailleurs je ne dis pas cela. Je ne dis
oui,
pas
mais
cela.
Vous mettez quand même ça,
ah oui, mais c'est pas moi, c'est Lacan. Quand il dit les hommes, les femmes, les enfants, ce ne sont que des signifiants. C'est pas moi. Hein, je cite Lacan.
Bah
non. Oui, mais non, je reprends pas à mon compte. Je cite et je commente la citation. Ensuite, ce que vous citez là, en effet, provient de ce premier livre d'il y a 20 ans, hein, presque.
Oui, qui s'appelle Le sexe prescrit, et la différence sexuelle en question.
Effectivement. Et à ce moment-là, bon, j'avais un certain angle d'attaque que j'ai modifié.
Ah, d'accord.
Non, mais je ne récuse pas du tout ce que je dis dans ce livre. Alors d'abord, les normes, je les prends pas du tout au sens du standard. Mais je le prends au sens de Canguilhem, tout simplement, c'est-à-dire de ces dispositifs de régulation des rapports, des formes de vie, hein, et qui sont à l'œuvre dans chaque individu et qui se renégocient à chaque fois dans une sorte de rapport conflictuel et dialogique, les deux à la fois. Et Canguilhem lui-même dit que les normes sociales ne sont pas à observer, mais à inventer, c'est-à-dire toujours à réinventer. Alors, cette question des hommes et des femmes et du langage ordinaire, ben justement, alors d'abord juste une petite chose pour finir de répondre à M. Winter. Tout ce que vous avez dit sur la fonction paternelle, pour moi, je ne vois pas pour quelle raison exactement, enfin je ne comprends pas bien, pour quelle raison vous le réduisez à la figure du père ou à la fonction, comme vous dites, du père en parlant de case, même comme si c'était, enfin c'est une vision que je trouve un petit peu mécanique.
En parlant de case.
Oui, vous avez parlé de case dans votre livre, la case du père manque, etc.
La case
n'est pas
du
remplie,
père.
Oui, ah, oui. La case. En fait, il me semble que c'est juste...
Tout le monde peut l'occuper,
non, non, mais pas tout le monde, mais un adulte, un véritable
homme
adulte.
Femme.
Oui, un véritable adulte. Et quant à l'interdit de l'inceste, au tabou de l'inceste, Freud est très clair là-dessus. Bien évidemment qu'il s'appuie sur l'histoire, la légende édipienne, en disant bien dans l'interprétation des rêves que, évidemment, qu'on peut la réinterpréter parce que comme toute œuvre à la fois littéraire et puis comme toute légende, elle peut être... il en prend quelque chose, mais il dit bien dans les trois essais sur la théorie sexuelle que la fonction principale du tabou de l'inceste, c'est quoi ? C'est de relâcher sur l'enfant l'emprise de l'amour passionné de l'adulte. Enfin, ça, c'est plutôt Ferenczi qui parle de l'amour passionné de l'adulte, mais des personnes aimées de l'enfance. Que ces personnes aimées de l'enfance soient des hommes ou des femmes, ça revient au même, au sens
ça,
où une, dans une femme.
C'est pas Freud.
Je pense que
non,
peut-être, mais il ne le précise pas
entre,
non plus.
C'est important de faire la différence entre ce que dit Freud et ce que vous dites.
Non, 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 il ne le précise pas non plus. Il dit les personnes aimées de l'enfance. Mmh. Il y a un degré d'abstraction là chez Freud que je trouve très précieux, si vous voulez. Et l'autre chose, c'est que, bah oui, bien sûr qu'on parle d'hommes et de femmes et que ça a du sens. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hommes et femmes? Et bien justement, chez Freud, que ce soit dans les trois essais ou dans d'autres textes, il dit que ces termes font partie des notions les plus floues de la langue ordinaire et pourtant, et qui sont claires pour l'opinion commune, non équivoques, dit-il, et pourtant, tout en étant si flou, nous les mettons à la base de notre système. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne va pas faire une toilette du langage en disant « homme c'est ça, femme c'est ça, père c'est ça, mère c'est ça ». Il va s'appuyer sur cette chose qui, effectivement, se retraduit d'âge en âge et de personne en personne, et qui fait que le contenu lui-même est d'une certaine manière en partie indéterminé. Et c'est d'ailleurs très étonnamment, dans la fin de son commentaire sur le Moïse de Michel-Ange, comme figure du père, on ne peut pas faire mieux, et de la loi, où il dit qu'au fond, peut-être que tout ce qu'il a dit, c'est pas tout à fait ça. Et dit-il, peut-être, il parle de Michel-Ange, et il dit, je revendique pour l'interprète de partager avec l'auteur le partage de l'incertitude, c'est-à-dire cette incertitude, c'est ce léger bouger, ce que j'appelle le flou, qui n'est pas quelque chose, ça ne veut pas dire que ce soit vide ces notions-là, ça veut dire qu'elles sont habitées par toutes sortes de représentations, elles sont le premier mot de la langue ordinaire, comme dit Austin, le premier mot, c'est notre point d'appui, mais il est meuble, et il n'est pas le dernier mot sur lequel on peut fonder une théorie, et je n'ai pas le même rapport que vous en effet, au mouvement de théorisation dans la psychanalyse.
Alors Jean-Pierre Mater.
J'ai pas besoin de m'appuyer sur l'argument d'autorité freudien pour soutenir que un père est une place, la place du père ne peut pas être occupée par n'importe qui. Et d'ailleurs, je donne un exemple clinique dans l'avenir du père pour montrer que si on soutient cette thèse, cliniquement, ça peut nous entraîner très très loin et à des dégâts absolument considérables. Par contre, je m'appuierai sur la littérature, et notamment sur, par exemple, le théâtre élisabétain, notamment dans cette pièce qui s'appelle « Dommage qu'elle soit une putain », où, vous savez, l'auteur dit que s'attribuer le pouvoir de dire que père, mère, sœur, frère, tout ça, ce sont des mots qui sont purement conventionnels, on peut très bien les changer et dire « ma sœur et mon frère et ma sœur, mon père et ma mère, etc. » On crée, et c'est ce qu'on peut constater, en tout cas je le constate moi assez souvent dans le travail avec les enfants, un tel bordel dans l'esprit de l'enfant que c'est le cas de le dire, la chatte qu'il aime n'y retrouve pas ses petits.
C'est dans la pièce ?
C'est dans la pièce, oui. Ouais.
Je peux vous répondre ?
Oui, bien sûr. Oh, bon.
Alors, je ne dis pas du tout que ce sont des mots conventionnels. Je dis que ce sont
L'auteur de Dommage qu'elle soit une putain.
C'est comme si, alors, ailleurs, citer Freud, c'est pas en tant qu'argument d'autorité, c'est en tant que lectrice attentive de Freud et des mouvements du texte. Je m'intéresse plus au texte freudien qu'à des contenus théoriques, comme disait très bien Zweig. Finalement, tous ces trucs-là, chez Freud, certains contenus théoriques, il dit que c'est des querelles, c'est sujet à querelles scolastiques, mais il a changé notre rapport à l'âme humaine, et c'est ça qui m'intéresse. Mais au fond, je ne parle pas du tout, moi, je ne dis pas qu'ils sont conventionnels, je dis qu'ils sont historiques, et qu'ils sont transmis.
Quand il dit historique, vous voulez dire révocable.
Parce que, non, pas du tout révocable, pouvant être habité par des contenus différents.
Ben voilà.
Ça ne veut pas dire révocable.
En tout cas, une chose est sûre.
Le mot homme et femme ne sont pas des termes à révoquer, ça n'aurait aucun sens. Sont réinterprétés.
Une chose est sûre, c'est que pour l'enfant qui paraît, le père incarne une dimension de l'altérité à laquelle personne d'autre peut se substituer. D'abord par sa voix. Le père, c'est d'abord la voix. Jusque dans le ventre de la mère. Parce qu'il y a une forme de gravité de la voix. Mais c'est une indication. Mais au-delà de ça, le père y incarne l'altérité parce que le père, c'est quelqu'un qu'on doit construire. C'est quelqu'un qu'on doit s'inventer, qu'on doit élaborer. Parce qu'il n'y a pas d'évidence du lien de l'enfant au père. Et faire qu'il n'y ait pas de père, c'est-à-dire non seulement supprimer ou interdire qu'il y ait un père, comme ça arrive par accident dans l'histoire de chacun d'entre nous, c'est pas la même chose que d'en supprimer la place. Parce que si vous supprimez la place du père en disant que n'importe qui d'autre peut l'occuper, vous faites comme si, là où il y a un trou, car l'absence d'un père, l'absence du père, ça fait trou dans le psychisme, là où il y a un trou, ce trou peut être comblé par n'importe qui, n'importe quoi. Il est vrai que dans la vie de tous les jours, chacun d'entre nous peut rencontrer quelqu'un qui, une seconde, une minute ou une journée, a occupé une fonction paternelle, a occupé une place. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est un père pour l'éternité, pour le sujet en question. Il me semble que le fait qu'il faille élaborer son père, qu'il faille l'inventer, est une chose qui le différencie de la mère qui, elle, peut être aussi élaboré et inventé, mais sur un support matériel, matériel, justement. Le père est par ailleurs, et c'est, je crois, très important, référence pour référence, là je m'appuierai sur Françoise Héritier, ça reviendrait d'ailleurs à l'exemple cité par Alain Finkielkraut tout à l'heure, le père est différent en tant qu'il est un homme de la femme, en ceci que, comme l'explique Françoise Héritier, il ne peut pas mettre d'enfant au monde. Et donc, il n'y a pas de preuve de la paternité. La paternité est de tout temps, depuis toujours, d'une très grande fragilité. Et c'est pour ça qu'il faut la protéger, parce que cliniquement, c'est indispensable.
Alors, vous dites, Sabine Procoris, que homme et femme, père et mère, ça ne doit pas être évincé, mais c'est historique, donc tout est réinterprétable.
Oui, oui.
Réinterprétable.
C'est la transmission culturelle, ça.
Voilà. Mais la réinterprétation va très loin aujourd'hui, parce que la mère peut assumer la fonction paternelle, dites-vous, et l'homme et la femme peuvent se dire femme quand ils sont hommes ou hommes quand ils sont femmes, en tout cas sur les campus américains, c'est devenu légal. Première observation, et je voudrais faire aussi un deuxième constat. En me fondant sur un film que vous avez peut-être vu, je crois qu'il a eu la Palme d'Or à Cannes il y a quelques années, The Square. C'est un film suédois, très fort et très drôle. Donc le héros est un directeur de musée, je crois, à Stockholm, et il a une aventure avec une jeune américaine. au terme de leur étreinte, elle veut s'emparer du préservatif copieusement rempli. Et il y a une sorte de bagarre entre eux, parce que lui veut le garder. Et ça, ça m'a donné à réfléchir. C'est-à-dire, au moment même où on évince l'homme comme père, on se l'arrache comme sperme. Ça, c'est quand même une situation qui donne à réfléchir. Et est-ce qu'on peut vouloir de cela ? Est-ce que c'est vers ce type de monde qu'il est souhaitable d'aller, même si les technologies nous le permettent et même si les droits individuels nous y invitent ? Sabine Procoris.
Tout le monde sera bien d'accord autour de cette table, je pense, pour considérer qu'un gamète n'est pas un père. Donc on ne va pas amalgamer les choses. Je n'ai pas vu ce film, donc je ne peux pas vous répondre.
Ah, vous devriez, c'est très bien.
Je n'ai pas vu. Bon, alors,
sur l'art contemporain,
une
c'est
chose,
remarquable.
Je voudrais juste dire quelque chose concernant ce que disait M. Winter. Enfin, je ne suis pas convaincue, pour ma part, du fait que cette fonction qu'il appelle paternelle soit forcément... Enfin, il ne s'agit pas de remplacer la fonction paternelle, il s'agit que les enfants aient des adultes. Et qu'est-ce que c'est un adulte ? C'est quelqu'un qui est responsable de la manière dont dont un enfant vient au monde et dont il l'accompagne pour devenir lui-même un adulte, c'est-à-dire un être qui n'est pas soumis à n'importe quoi, qui est capable aussi, quand quelque chose est, enfin, de lui transmettre cette possibilité-là. Alors, maintenant, je ne sais pas exactement sur lequel des points vous vouliez que je réponde, mais sur cette question de la différence des sexes, justement, revenons-y, puisque vous parliez de ça à propos des situations de transsexualité, etc. Il y a un fait, bien évidemment, que l'humanité est sexuée, d'accord ? Que nous, de la même manière, nous sommes mortels, et puis nous mangeons, nous respirons, etc. Tous ces éléments-là, jamais ils n'ont été des faits purement naturels. Ils ont toujours été traités par les sociétés. Je préfère dire les sociétés, d'ailleurs, que les cultures. Du reste, d'ailleurs, ce que vous disiez, Monsieur Winter, tout à l'heure sur la fonction paternelle, semblait impliquer que la mère, il y a la vraie mère. La vraie mère, c'est celle qui accouche. Alors, dommage pour les mères adoptives, hein. Pardon de vous le rappeler, mais quand même. Bon, mais finalement, la question de le fait de la sexuation peut être envisagé de différentes façons. On peut l'envisager comme différence des sexes en accentuant le terme de différence. On peut l'envisager comme dualité des sexes, ce qui d'une certaine manière ferait une essence masculine, une essence féminine. Certains psychanalystes le font. Et on peut l'envisager comme moi j'aime bien parler de voisinage des sexes, c'est-à-dire quelque chose où nous avons à penser des distinctions qui sont en même temps sur fond de proximité et de ressemblance. C'est ça le plus difficile penser. C'est-à-dire penser. Et d'ailleurs, Freud le dit à propos de l'angoisse dans l'inquiétante étrangeté. Il dit que ce qui nous fait le plus peur, et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les nouvelles formes de parenté, c'est pas du tout ce qui est là, totalement autre et totalement différent, c'est ce qui est presque pareil, mais pas tout à fait.
Oui, mais on peut l'envisager aussi comme expérience de la finitude.
Ben, bien sûr.
Il y a deux sexes, ça veut dire aussi que aucun être humain ne peut vivre à lui seul le tout de l'expérience humaine.
Mais personne ne
prétend
cela.
Quelque chose lui échappe. Et c'est ça la différence. Mais donc c'est pour ça que celle-ci doit être, me semble-t-il, préservée et maintenue, alors que beaucoup de gens tendent à affirmer que, au fond, il revient à chacun de choisir, comme il l'entend, son idée sexuelle. C'est-à-dire que le mouvement que vous analysez, c'est un mouvement de réduction toujours plus grand de la part non choisie de l'existence humaine.
Non.
C'est un mouvement, dirait Hannah Arendt, de ressentiment contre le donné.
Non.
Et
pas du tout.
Et il y a peut-être
pas du tout
quelque chose de nihiliste
pas du tout.
Dans un mouvement comme
pas
celui-là.
Du tout. Pas du tout. En tout cas, ce n'est pas ma position. Et je voudrais juste dire quelque chose sur, justement, vous disiez quelque chose de très important. La question de la transmission, finalement, et de l'humanité. Je suis, moi, quelqu'un qui... Je suis tout à fait universaliste, sur tous les plans. Je suis universaliste. Et donc, c'est quoi la transmission humaine ? C'est bien entendu la transmission de génération en génération, mais pas seulement. C'est cette capacité... Et qu'est-ce que c'est être adulte ? C'est précisément parvenir à s'affranchir. C'est pour ça que L'avenir d'une illusion est un texte que je trouve très profond sur le rapport des êtres humains au monde. S'affranchir, finalement, de quelque chose qui est uniquement le rapport de l'enfant à son père, et donc de rester un éternel mineur, si vous voulez, mais d'être capable de voir dans l'adulte, les parents, un autre être humain. Et quelqu'un. Et c'est pour ça que la littérature, puisque vous parliez de la littérature, nous aide énormément pour ça. Vous parliez de la littérature, on pourrait parler des figures de père, on pourrait parler de voir de ce qui se passe chez Molière. Là, je reviens de voir les fourberies de Scapin, c'est très intéressant ce qui se passe sur la question des pères. Mais prenons Conrad, par exemple. De quoi nous parle-t-il, Conrad, quand il nous parle de la transmission et du fait que la tâche de l'artiste, finalement, mais la tâche de tout humain, c'est de parvenir à nous relier à ceux qui vont venir et à ceux qui étaient avant nous, et à partir de cette fraternité fondamentale. Mais fraternité, ça n'est pas du tout la horde des frères dont vous parlez, parce que quand vous parlez de ça à partir du mythe de Totem et Tabou, en fait, vous restez au niveau du fantasme. C'est-à-dire, vous ne symbolisez pas véritablement, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est cette histoire de fraternité chez Conrad? C'est pas du tout la horde des frères et la rivalité qui s'ensuit. C'est quelque chose qui, la fraternité, a là un sens beaucoup plus abstrait, c'est-à-dire ce qui représente le lien, l'en commun fondamental entre tous les êtres humains, les parents, les enfants, d'une génération à l'autre.
Oui, mais on va dire que les parents et les enfants sont fraternels.
Non, mais pas fraternels au sens familialiste et au sens de la famille, mais au sens abstrait du lien de fraternité qui représente quelque chose d'une horizontalité entre tous les êtres humains du début de l'histoire.
Horizontalité, à... alors oui, c'est intéressant, voilà. Parce qu'il est beaucoup question de verticalité dans la famille.
Ça se croise, hein.
Oui,
ça se croise.
Et vous, Jean-Pierre Winter, vous insistez, à la suite de Pierre Legendre, sur l'importance de la généalogie, par-delà même la figure du seul père, Jean-Pierre Winter.
Absolument, je reprends cette phrase de Pierre Legendre, qui dit que l'homme est un animal généalogique. Ça veut dire que, par exemple, l'animal humain, pour reprendre une expression qui est de Pierre Legendre, l'animal humain que nous sommes est différent de l'animal du mammifère courant, sans entrer dans les détails de quel mammifère fait quoi, etc. Enfin bon, prenons par exemple les bovins. Un veau peut savoir et s'intéresser à savoir qui est sa mère. Encore qu'il peut se tromper, d'ailleurs, puisque sa mère sera celle qui va le nourrir. Mais il ne s'inquiète en rien de qui est son père. Et surtout, il s'inquiète en rien de savoir qui sont ses grands-parents. Encore moins. Ça ne l'intéresse absolument pas. Pour nous, c'est pas pareil. Et dans la question de la généalogie, il se trouve qu'il y a deux figures majeures qui sont le père et la mère. Et amputer un enfant d'une partie de sa généalogie au nom d'une idéologie de la fraternité et de l'égalité, je dirais même d'un certain égalitarisme, qui presque polynien d'ailleurs, hein, il n'y aura plus ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. La religion n'est pas toujours du côté qu'on croit. Hein. Et d'ailleurs, j'ajoute une chose, c'est qu'il suffit pas que la religion, une religion... disent quelque chose qui fait lien social pour que ce soit condamnable parce que ça émane de la religion. Ce qui est condamnable, par exemple, on peut pas dire que parce que les religions disent tu ne tueras point, il faut mettre un point final à cette affaire parce que ce sont des religieux qui l'ont dit. Non, ce qui fait problème, et d'ailleurs Freud le soulève lui-même, ce qui fait problème, c'est que dans la religion, c'est qu'il soit dit que c'est Dieu qui l'a dit. La différence des sexes dont vous faites un syntagme ironique.
C'est pas moi qui en fais un syntagme. Mais
si, enfin, vous l'écrivez plus.
Je montre comment c'est substantifié.
Oui, c'est ça. Vous l'écrivez avec des tirets, de façon extrêmement ironique.
Non, en un seul mot.
En un seul mot, oui, c'est ça.
Tout attaché.
Tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi.
De façon extrêmement ironique. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose dans ce que vous écrivez, c'est que c'est toujours, quand vous parlez des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est toujours sur un mode ironique, à la limite méprisant et qui essaye d'entraîner le lecteur du côté de un côté sikh. Si vous rendez compte de ce qu'il dit, mais la démonstration qui prouverait que c'est pas pertinent, on l'attend quelquefois longtemps sur les pages. Bon, enfin bon. Bref, la différence des sexes. Vous dites je préfère, et je sais que c'est une idée à laquelle vous tenez depuis longtemps. Je préfère le voisinage des sexes. Mais Sabine Procoris, est-ce que vous savez de quoi les tribunaux sont encombrés depuis si longtemps, au point que la justice qui serait utile ne peut pas être rendue ? De procès de voisinage, c'est-à-dire que loin que ça apaise les choses, ça, au contraire, ça les rend dramatiques. le voisinage des sexes, c'est pas mieux que la différence des sexes. Et la différence des sexes, c'est pas un fétiche. Hein, la différence des sexes, c'est la reconnaissance de quelque chose qui est au moins aussi important dans la structuration des sujets. Et j'ajoute, pour que ce soit nuancé, parce que c'est aussi la réalité clinique, j'ajoute que je ne sais pas exactement quelle est la différence des sexes. Je ne pourrais pas vous dire, et j'insiste là-dessus longuement dans le livre, je ne peux pas dire la différence entre un homme et une femme, c'est ceci ou c'est cela. J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas parce que je peux pas le dire que ça n'existe pas. Et la différence des sexes, pour moi, c'est au moins aussi important que la différence entre la vie et la mort. Parce que la mort, c'est aussi quelque chose dont on pourrait dire que c'est un concept historique, culturel, construit. La mort en Inde ou la mort en Allemagne, il y a un très beau texte de Kafka qui s'appelle « Discours sur la langue yiddish » où il explique que la mort en yiddish et la mort en allemand ne parlent pas du tout de la même chose. Donc il y a une construction culturelle, il y a une construction sociale autour de la mort. Est-ce pour autant que on va dire ben, il n'y a plus de différence, ou en tout cas c'est secondaire, ça n'a pas d'importance, la différence entre la vie et la mort, c'est pas plus important que la différence entre les hommes et les femmes. Dernier point sur cette question, vous citez Lacan dans le séminaire encore, quand il dit les hommes, les femmes, les enfants, ce ne sont que des signifiants, et quand vous le reprenez après, vous oubliez les enfants.
Non.
Hein, mais si.
Non, non, non.
C'est-à-dire, vous oubliez de dire que les enfants, c'est aussi, dans ce discours-là, des signifiants, mais reprenez le contexte dans lequel Lacan dit ça, il dit, oui, c'est comme ça, ce ne sont que des signifiants, mais il y en a d'autres des signifiants. Il y a ceux qui font que, c'est pas aussi simple que ça, et pour rester sur la question du père, il en vient à dire que ce qui est important quand on dit que ce sont des signifiants, c'est de rappeler que ce ne sont pas que des signifiants. Le triptyque lacanien réel, symbolique, imaginaire s'applique en tout point sur cette question. Et il importe de ne pas mettre au rancard la question du réel, c'est-à-dire la question effectivement biologique, pas mettre au rancard, comme vous le faites souvent en l'attaquant assez violemment, la dimension du symbolique et de s'en tenir à la dimension imaginaire. Chacun d'entre nous, dans ses fantasmes inconscients, quand il était petit, quand il était enfant et qu'il essayait de savoir d'où viennent les enfants, chacun d'entre nous s'est imaginé, un tel s'est imaginé qu'il pouvait faire un enfant avec son père, avec sa mère, avec son frère, avec sa sœur, etc. Est-ce à dire, pour autant, que l'inconscient doit aujourd'hui être au poste de commandement et que c'est lui qui doit faire loi au prix d'évacuer toute conflictualité entre le conscient et l'inconscient.
Alors Sabine Procoris, il est vrai que vous avez des mots très durs
pour
la notion d'ordre symbolique, en tout
cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, quant à l'ironie, c'est Pascal qui est mon modèle, on va dire, le Pascal des provinciales, sur beaucoup de sujets, y compris sur Brigitte Butler. Mon livre s'appelle « Au bon plaisir des docteurs graves » parce que c'est une allusion directe aux docteurs graves des provinciales, donc les jésuites. Bon. Alors, maintenant, sur la question du voisinage et de la différence. Quand j'en fais un syntagme, ce n'est pas ironique. Je veux dire par là simplement que c'est cette perception de la relation, si vous voulez, en termes de différence, c'est une des perceptions. Bien sûr, elle n'est pas fausse, mais le syntagme est fait est dû au fait qu'il y a quelque chose qui est en quelque sorte incorporé sous forme, effectivement, je dirais que ça devient une formation de l'inconscient. Et en tant que tel, c'est ambivalent et mobile. Maintenant, dans le discours théorique, ça devient en effet un fétiche. Et quand je parle de voisinage, c'est évidemment pas du tout au sens de « c'est sympa la fête des voisins ». C'est pas du tout ça. C'est justement pour mettre le point sur la difficulté à penser les petits écarts et dont Freud parle notamment dans le texte que je citais tout à l'heure, quand il parle du narcissisme des petites différences. Donc la question, c'est qu'effectivement, c'est très pratique, la différence des sexes comme fétiche, disons-le, fétiche théorique, croyance théorique, ça ne veut pas dire que ce soit inutile pour penser certaines choses, mais c'est d'y croire comme ça, comme certains croient au genre, ça n'aide pas à penser le réel dans sa difficulté et dans les écarts.
Je vais vous poser une toute dernière question, parce que nous avons peu de temps, sur le réel, justement. À partir ou non de la différence des sexes, il est de plus en plus question d'ouvrir la procréation médicalement assistée aux couples de femmes homosexuelles et aux célibataires. Et la notion de projet parental, dit un récent rapport de la mission parlementaire, a pris le pas sur le critère d'infertilité pathologique qui verrouille actuellement le champ d'intervention de la procréation médicalement assistée. Alors, êtes-vous pour cet élargissement ou non?
Et malheureusement, vos réponses devront être rapides.
Ben, très rapidement, je dirais que le message qui va être envoyé à tout le monde ne concerne pas que les femmes homosexuelles et les mères célibataires. Le message qui va être envoyé, c'est « un père, c'est superflu ». Tout le monde va comprendre que, dorénavant, un père, c'est superflu. Ça, c'est le point important. Évidemment, tel qu'il est présenté, je ne suis pas pour ce projet parce que je souhaiterais que, quelles que soient les conditions dans lesquelles les enfants vont être conçus dorénavant, il soit fait mention écrite dans l'acte de naissance, dans le livret familial, peu importe, il soit fait mention du fait que cet enfant, quoi qu'il en soit, a eu un père. Et que le fait qu'il ait deux mères ou qu'il ait deux pères ne change rien au fait qu'il a eu un père, et dans le cas éventuellement de la GPA, mais c'est pas à l'ordre du jour, il aura eu une mère.
Très vite, d'abord, je crois que vous confondez dans ce que vous dites là le père et le géniteur, voire le gamète. Un père, c'est pas un géniteur, ça ne se réduit pas au géniteur, donc non, ce n'est pas un père. Alors, est-ce qu'il s'agit de rendre le père superflu? Je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit. Tout simplement d'indiquer qu'il peut y avoir des configurations familiale, où il n'y a pas de père, mais où il y a deux adultes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pourquoi ?
Et vous n'êtes pas contre ?
Non, mais parce que je pense qu'il est beaucoup plus anxiogène, et ça aide les adultes à assumer leur responsabilité d'être encadrés par la loi, plutôt que d'être hors la loi ou à côté de la loi. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup. Merci Sabine Procoris. Alors je rappelle le titre de votre dernier livre, Des raisons, les juges face aux nouvelles familles. Le livre est publié aux Presses universitaires de France et nous avons également cité votre livre Le sexe prescrit, la différence sexuelle en question. Il est publié aujourd'hui dans la collection Champs, Jean-Pierre Winter, votre dernier ouvrage, L'avenir du père, chez Albin Michel. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Le mystère Houellebecq. Mes invités seront Agathe Novak, le chevalier, et Frédéric Bébédé. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Guillaume Ledu. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.